Silhouette, votre rendez-vous du lundi et du mardi sur Radio Grille Ouverte 88.2. Silhouette, à la rencontre de ceux qui sont habités par la passion. Silhouette, une émission proposée par Jean-Paul Pascal. Bonjour à tous, Cathy Rouvérol est à la technique. Et mes invités aujourd'hui dans Silhouette, Louise et Michel Caron. Bonjour Louise.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes presque des habitués de cette émission maintenant, puisque vous êtes déjà reçu au mois d'octobre pour parler de théâtre. Mais nous allons quand même, non pas refaire l'émission du mois d'octobre, mais faire un petit résumé des chapitres précédents. Vous venez aujourd'hui pour nous présenter deux ouvrages. Hein. Après la version théâtre, nous avons la version littéraire de Louise et Michel Caron. Nous allons quand même un peu parler de votre lourd passé théâtral en région parisienne. D'abord, en commençant par le théâtre de la commune d'Aubervilliers pour Louise et le théâtre de l'Est parisien pour Michel. Alors, un petit mot peut-être chacun rapide de cette rencontre avec le théâtre. Michel.
C'est a été une rencontre avec le milieu de ce qu'on a appelé le théâtre populaire, qui était issu du TNP de Villars. Et on s'est trouvés tous les deux plongés, d'abord séparément, puis ensemble dans l'Est parisien, à l'intérieur de ce milieu. Et ça nous a amené à développer différentes activités, jusqu'aux activités que l'on développe aujourd'hui sur la région d'Anduze.
Après le théâtre d'Aubervilliers ou le théâtre de l'Est parisien, vous êtes passé aussi par le théâtre École de Montreuil, qui proposait, si je me souviens bien, nous en avions parlé la dernière fois, une formation extrêmement atypique.
Oui, c'était une formation pour des salariés. C'était une formation en cours du soir, style conservatoire des arts et métiers, mais pour le théâtre, qui permettait d'acquérir une solide formation théâtrale à des gens qui, par ailleurs, avaient une activité qui leur permettait de manger tous les jours.
Voilà, parce qu'il faut préciser que pendant toute cette période, vous avez poursuivi une carrière professionnelle qui n'avait strictement rien à voir avec le théâtre.
Non, nous étions tous les deux biochimistes et on a fait de la recherche dans un laboratoire, dans une université de la banlieue parisienne.
Alors, est-ce qu'on peut trouver des ponts quand même entre le théâtre et la recherche en biochimie? Ou est-ce que vraiment ce sont deux univers complètement étrangers, complètement séparés?
On pourrait toujours trouver des ponts, je pense qu'ils seraient un peu artificiels. Dans les deux, je crois qu'il y a une passion pour quelque chose.
Et puis la curiosité aussi peut-être, voilà. Théâtre, parce que bon, les gens de théâtre sont des gens a priori curieux, qui ont envie de faire partager, et quand on est dans la recherche aussi, on a envie de faire partager ses découvertes.
Ouais, effectivement, le principal point commun, c'est peut-être le partage, ce qu'on peut appeler le contact public, d'une façon générale, puisque lorsqu'on est dans une activité scientifique, il faut aussi communiquer, pas seulement par écrit, mais également oralement, aussi communiquer à des jeunes ce que l'on a appris au cours des années. Donc c'est aussi toute la partie formation, la partie enseignement, qui comprend aussi sa partie théâtrale.
Aussi, je pense, oui. C'est une réflexion que nous faisons souvent avec les enseignants que je reçois de temps en temps à ce micro. Alors, on peut rappeler aussi que l'heure de la retraite est venue, vous venez vous installer à Anduze, où vous poursuivez vos activités théâtreuses, en créant d'abord un atelier, puis la compagnie T2A, alors du nouveau depuis le mois d'octobre dans les activités de la compagnie.
Pour l'instant, toujours la ménagerie de verre qui arrive à son terme. Et puis, pour des pistes de réflexion, des idées sur comment parler de la guerre de 14 pour le centenaire du début de la guerre. D'autres pistes pour une nouvelle aventure théâtrale qui serait à ce moment-là jouée par Michel et mise en scène par moi. Mais pour l'instant, c'est vraiment... à l'état embryonnaire.
Nous sommes encore tout à fait dans le flou. Bon, mais la compagnie, en fait, la version atelier de la compagnie
continue
quand même. Et vous avez de nombreux élèves, de plus en plus, je crois.
Ben non, cette année, c'est un peu mort.
Ah. Alors, je suis tombé en plein à côté.
Non, je pense que c'est lié à la difficulté qu'ont les jeunes aujourd'hui de se fixer quelque part par rapport à leur boulot. Ils voyagent beaucoup, ils n'arrêtent pas de courir. On leur demande des horaires qui sont difficiles. Alors, avoir une activité théâtrale qui soit suivie en parallèle, dans laquelle ils s'engagent, c'est difficile.
Ouais, il faut quand même rappeler voilà, que même dans le théâtre amateur, un engagement en théâtre, c'est un engagement à fond. Et bon, on ne peut pas être là à moitié ou assister à 75% des répétitions ou des ateliers.
Non, en fait, il faut être là à 200%.
Oui, oui. Présent physiquement et puis présent dans sa tête tout le reste du temps.
Hein. Il n'y a pas de différence entre théâtre amateur et théâtre professionnel pour ça, sauf qu'en plus, les amateurs, ils doivent travailler à côté. Ce qui est encore plus... Peut-être pas plus difficile, mais c'est autre chose.
Oui, on est dans un univers un peu différent. Alors, je me tourne vers Louise, donc puisque vous venez de nous parler de deux ouvrages que vous avez écrits. Donc, Michel, nous en parlerons dans un instant. Qu'est l'Espingouin devenu ? C'est déjà un titre assez mystérieux. Et nous allons voir que l'ensemble du roman est assez mystérieux aussi. Et Louise, donc pour se départir, jusqu'ici, Louise, vous aviez écrit avec un certain bonheur pour le théâtre. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous essayer au roman ? C'est l'attrait de la nouveauté, l'absence de contraintes, l'envie de vous exprimer directement et non plus par le truchement d'un personnage ?
J'aime bien raconter des histoires et la forme romanesque permet de répondre à des questions que la forme dialoguée théâtrale n'autorise pas. Donc le roman était pour moi une voie pour répondre à des questions que je me posais sur la vie, sur le doute, le ressentiment. C'était une façon de livrer au travers d'une histoire, ces questions-là, et tenter d'y répondre sur le papier.
On trouve quand même l'empreinte un peu de votre écriture théâtrale, puisque une partie du roman est dialoguée quand même, et une grande partie est aussi monologuée, si vous utilisez ce néologisme, mais on trouve quand même une empreinte de cette écriture théâtrale.
Je pense qu'on a une écriture, on peut pas se forcer à écrire comme ci ou comme ça. C'est pas du procédé, c'est quelque chose qui vient naturellement. Ensuite, on essaie d'aller vers quelque chose, une forme ramassée. Je crois qu'en littérature, mais c'est comme en théâtre. Il faut pas noyer le poisson dans un courbouillon de choses saumâtres. Donc, si on veut que le mot signifiant soit signifiant, s'il est enrobé dans beaucoup de choses anecdotiques, finalement, on ne l'entend plus. C'est pareil dans un dialogue de théâtre. C'est pareil sur le papier, je crois.
Et du coup, ça donne un texte effectivement extrêmement dépouillé et du coup très agréable à lire.
Je suis très contente qu'on me le dise.
Alors nous allons parler, avant de parler du contenu, j'aimerais que nous parlions un peu du titre, se départir. Alors tous les bons dictionnaires nous apprennent que se départir signifie renoncer ou abandonner. Alors d'abord, pourquoi le choix de ce titre ?
Parce que les personnages sont amenés à renoncer un événement qui s'est produit, sont amenés à renoncer peu à peu à une part d'eux-mêmes. La mère renonce peu à peu à son rôle de mère, la fille à son devoir de fille, le père à son devoir de père et d'époux. Donc on est dans une situation où il faut arriver à un certain dépouillement et aussi arriver à se départir peu à peu du ressentiment.
L'histoire est peut-être un peu difficile à raconter, alors je vais lâchement vous laisser le soin de le faire.
Alors bon, c'est difficile à raconter si on veut continuer à ménager le suspense.
Voilà, c'est pour ça. En général, je préfère que les auteurs fassent ça eux-mêmes, comme ça ils s'arrêtent à l'endroit choisi.
C'est une histoire de famille. Et comme beaucoup d'histoires de famille, elle recouvre des secrets qu'on doit pas dévoiler dès le départ. Alors, je vais le dire avec beaucoup d'économie, un peu comme dans l'écriture. Donc, il y a une mère, une fille, un fils mort, une séparation, des non-dits, des malentendus, de la jalousie, de la rancune, des humiliations, une communication zéro. Et de quoi faut-il se départir ? Ça, on le saura quand on va lire le roman. Donc, dans la première partie, on suit la mère, Éléonore, qui est venue à la demande de sa fille Léa, rendre visite à Paris à son ex-mari, Antoine, qui est plongé dans un coma profond. Elle n'a pas revu son ex-mari depuis leur divorce, qui était lié à la mort de leur fils de 16 ans, Guilhem, dans un accident, une noyade, à la suite d'une altercation avec son père. Et Éléonore est persuadée de la responsabilité d'Antoine et elle a développé et entretenu une haine tenace contre lui.
Oui, c'est épouvantable comme haine, oui. Oui.
C'est vraiment
épouvantable. J'ai rarement ressenti dans un personnage
Elle, c'est une boule de haine contre cet homme qui a été son mari et le père de ses enfants. Donc, Éléonore n'est pas revenue à Paris depuis son divorce, c'est-à-dire depuis 22 ans, et elle a enfermé son chagrin et sa rancœur dans un massévenol qu'on peut situer quelque part entre Anduze et Vallée Française, on va dire. C'est un lieu qui n'est pas nommé et ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ce soit au bout du monde. Donc elle se retrouve donc à Paris et pour voir son mari, et elle est bloquée dans une grève des cheminots. Et cette vacuité obligatoire va la conduire à s'interroger sur le passé, sur le présent. Et ce qu'elle perçoit de la ville de Paris qu'elle découvre après 22 ans d'absence et qui lui paraît complètement inhumaine. Et elle fait aussi des rencontres. Alors, bon, on va donner un petit bout de la deuxième partie, dire que Léa, c'est une jeune femme qui a 33 ans au moment du roman.
Donc Léa qui est donc la fille d'Éléonore.
C'est la fille d'Éléonore et d'Antoine. Elle a fait les frais du divorce de ses parents. C'est une jeune femme qui est fragile, elle est meurtrie. On va découvrir peu à peu pourquoi elle est meurtrie. Et ça, on le découvre dans la deuxième partie. Et la deuxième partie, ce sont les confessions de Léa. C'est des éléments qu'elle fournit qui vont préciser ou contredire le récit d'Éléonore. En fait, le roman est construit comme un puzzle qui doit être à même de bouleverser les certitudes du lecteur. Donc, ce que livre Léa, en fait, au départ, est inimaginable.
Oui, c'est très malin, en plus, parce que les pièces se mettent en place petit à petit, presque sans que le lecteur s'en aperçoive. C'est parfois plusieurs pages plus loin, on se dit, tiens, il s'est passé ça. Donc, ça nous donne tel élément de compréhension de l'histoire. Hein.
Voilà, et on attend la dernière page pour connaître la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est bien difficile. Est-ce qu'il y a vraiment une vérité?
Voilà, encore même à la dernière page, je pense qu'on n'est pas tout à fait sûr de la vérité. Est-ce que le titre du roman aurait pu être Autopsie d'un mensonge?
Ça aurait pu, mais je pensais que de garder un verbe dans sa forme infinitive permettait de laisser complètement au lecteur le choix de ce dont ces gens allaient devoir se départir.
Oui, oui. Et puis c'est aussi un procédé qui met le lecteur dans l'action.
Dans l'action départ,
oui,
voilà.
Oui. Vous ouvrez le livre par une citation de Pirandello. Je suis celle que vous croyez que je suis. La morale judéo-chrétienne nous enseigne que le mensonge, c'est un péché, et du coup nous incite à superposer un peu les notions de vérité et de réalité. Est-ce que vous avez voulu montrer aussi que l'on peut parfois échapper à ce dogme, ou en tout cas essayer d'y échapper?
Oui, parce que ça paraît paradoxal de dire ça, mais je pense que la vérité est plurielle. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une vérité absolue. Je me suis beaucoup interrogée sur le processus de la remémoration, en fait. Parce que quand on demande à des gens de parler de leurs souvenirs, on est dans une réinterprétation de la vérité. Et je repense à un livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle « Cours, la vie t'appelle », où il explique bien que le souvenir est reconstitué à partir de la mémoire, mais aussi à partir de ce qui est supportable pour l'individu.
Oui, à partir de... On sait que la mémoire, c'est... Avant d'être ce dont on se souvient, c'est ce qu'on a oublié.
Voilà, elle se compose, la mémoire, de la fragilité des sentiments. Elle doit composer avec l'indicible. Et en fait, j'ai une phrase de Cyrulnik qui dit « Toutes les images mises en mémoire sont vraies, c'est la recomposition qui arrange les souvenirs pour en faire une histoire. » Chaque élément inscrit dans la mémoire constitue un élément de la chimère de soi. Mais je pense que ça résume bien.
Il n'y a vraiment pas grand-chose à ajouter. Je crois que c'est une excellente présentation de votre ouvrage, parce qu'on est vraiment au cœur du thème. Là.
Voilà.
Nous allons commencer à explorer un peu votre discothèque, si vous voulez bien, Louise. Donc, la première illustration sonore que vous nous proposez, c'est Les mots de Bernard Joyer. Alors peut-être, c'est Michel donc qui le présente. Alors, je vous laisse faire le boulot jusqu'au bout.
Oui, bien, juste pour présenter les mots, on parle des mots, on va l'entendre. Simplement, Bernard Joyer, qui n'a pas toujours l'audience qu'il mériterait, surtout sur les chaînes nationales. Et donc, c'est quelqu'un qui est assez central aujourd'hui pour tout ce qui est nouvelle chanson française et chanson à texte en particulier. Beaucoup de choses qui se passent dans cette chanson tournent aujourd'hui autour de lui, et même effectivement, si on l'entend peu sur les chaînes nationales, c'est quelqu'un qui fait des salles combles partout où il passe, qui a fait des salles combles quand il est passé au Festival d'Avignon il y a 2 ans, et c'est vraiment un chanteur, un auteur, un compositeur, mais c'est un écrivain des mots avant tout.
Alors on écoute tout de suite et on se retrouve pour continuer à parler du livre de Louise Caron, « Se départir ».
À l'encre blanche dans ma nuit, une page noire s'allume. Les mots se glissent sous la plume qui langoureusement les suit. De l'arbre blessé sur un temps, perle des globules de sève, aux commissures de mes rêves, les mots sont des gouttes de temps. Des sirènes, des lamentins traînent leurs lignes en mots troubles. J'entends le passé simple double et le futur plus que certain. Les mots enfantent les idées comme l'eau invente la source. Ils sont la monnaie de la bourse, le guide premier de cordée. Les mots s'écrivent ou se crient du chant primal à l'épitaphe. Ils friment dans leur orthographe, rutilante carrosserie. En suspension dans l'essentiel, les mots exhalent leur essence. Ils encensent mon innocence aux éthers de miel ou de fiel. Impatient et prêt à bondir bravement sur la barricade, en guise d'arbre camarade, je n'ai que des mots à brandir. Les murs, sitôt qu'ils caressent la pierre, fustigent grilles et frontières, meurent sucés par la censure. Par les racines périmées, le fil de l'oubli se faufile, c'est l'hémorragie, les mots filent du vaisseau fantôme abîmé. Brader les bijoux, les émaux et claquer les dernières thunes, je sourirai à la fortune tant qu'il me restera des mots. Mots d'esprit, mots clés, grands ou gros, d'enfants, de passe, de cambronne, mots qu'on mâche, mots qu'on se donne, le mot de la fin, le fin mot. Brader les bijoux, les émaux et claquer les dernières thunes, je sourirai à la fortune tant qu'il me restera des mots. Tant qu'il me restera des mots.
Radio Grille Ouverte 88.2, vous écoutez Silhouette. Aujourd'hui dans Silhouette, Louise et Michel Caron qui viennent nous parler de leur dernier roman, Se départir pour Louise. Et quel est ce pingouin devenu pour Michel Caron? Nous en parlerons dans un instant, mais nous restons avec Louise. La comédie est dans la vie comme sur la scène, tout est affaire de conventions. S'il n'y avait pas les conventions au théâtre, les pièces seraient insupportables pour le spectateur et peut-être même carrément impossibles à monter. Est-ce que c'est la même chose dans la vie?
Oui, c'est la même chose dans la vie. Et dans le roman, c'est pareil. Un roman comme Se départir serait insupportable s'il n'y avait pas quelques traits d'humour par moment. Il faut que les personnages, dans leur noirceur...
Des soupapes de sécurité.
Voilà, donne un peu de souffle de temps en temps et permette au lecteur de décompresser. Sinon, ça devient... C'est impossible, c'est comme une cocotte minute sous pression.
Mais là, je parlais plutôt des conventions dans la vraie vie, des conventions sociales en l'occurrence, qui sont très présentes quand même dans votre dans votre roman. À partir de quel moment est-ce que la convention devient malsaine, voire pathologique?
Ben, ça dépend ce qu'on appelle convention. Je sais pas, vous pouvez préciser ce que vous appelez convention.
C'est simplement un certain nombre de règles que nous nous imposons et dont on peut parfois se demander à posteriori.
Les règles du vivre ensemble.
Par exemple, oui.
Oui, c'est sûr que les règles du vivre ensemble sont un peu bousculées à l'intérieur du roman.
On peut le dire.
Bon, c'est vrai que, par exemple, le personnage, en fait, Éléonore, est devenue quand même un peu sauvage. Donc, je crois que les règles du vivre ensemble et du savoir-vivre, elle les a laissées de côté, puisqu'elle s'en est départie aussi. Et quand elle se retrouve en ville à devoir commander au restaurant, elle bouscule un peu le serveur en lui demandant, par exemple, de choisir les plats pour elle. Et elle dit ce qu'elle a envie de dire au moment où elle a envie de le dire. Et quelquefois, c'est pas facile à entendre. Quant à Léa, c'est pareil, un peu différent.
Dans un registre un peu différent quand même.
Voilà, dans un registre différent. Ouais. Mais...
Est-ce que vous avez voulu montrer aussi peut-être que l'incommunicabilité peut passer à la fois par le trop peu ou par le trop de paroles?
Oui.
J'ai ressenti ça effectivement, que ces deux extrêmes, hein, les gens qui se taisent complètement ou les gens qui parlent beaucoup, finalement ça revient à peu près à la même chose.
Oui, tout à fait, ça revient à masquer. Quand on parle beaucoup, on masque souvent la réalité au travers des mots. Alors que quand on parle pas, on tait cette réalité. Et dans les deux cas, ça traduit chez le personnage un malaise, un mal-être, une difficulté à exprimer ce qu'il a profondément en lui.
Alors, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc vous avez écrit pour le théâtre, alors, et puis votre pratique du théâtre aussi vous a habitué à l'observation des autres. Je crois que c'est peut-être le fondement du travail de l'acteur ou de l'auteur, c'est l'observation des autres. Comment est-ce que vous avez composé ces personnages très complexes d'Éléonore et Léa en particulier? Elles sont souvent sur le devant de la scène, mais aussi les seconds rôles comme Antoine, Thibault ou Guillaume.
Je suis d'abord partie, je suis pas partie des personnages, je suis partie de l'envie de répondre à des questions. Ça me taraudait depuis longtemps, l'idée du ressentiment et du doute. Donc j'ai cherché des personnages qui pourraient être porteurs et une histoire autour de ces personnages qui pourrait être porteuse de pistes de réponses. Et partant de là, l'histoire s'est construite peu à peu. Elle a commencé par Éléonore et l'univers qui était autour d'Éléonore. Qu'est-ce qu'il fallait construire autour d'Éléonore pour qu'elle puisse se départir de ça? Donc, les personnages secondaires sont arrivés, mais ils sont pas si secondaires que ça. Toutes les rencontres qu'elle fait, le veuf au départ, etc., sont des personnages qui ont un intérêt dans la façon dont elle va peu à peu comprendre les choses qui lui arrivent.
Oui, parce qu'ils nous apprennent quelque chose sur Éléonore.
Ils nous apprennent quelque chose. Voilà, à chaque fois.
Par sa réaction.
Par sa réaction. Et au départ, j'avais pas c'était prévu que ce soit un diptyque, donc deux voix forcément. Et la deuxième voix pour moi, au départ, était celle du mari d'Antoine. Et quand le roman s'est construit peu à peu, il m'est apparu que ça ne pouvait pas être Antoine la deuxième voix, que la seule capable de livrer la vérité, c'était Léa. Enfin, la vérité, sa vérité. Et de compléter la voix d'Éléonore, c'était la voix de la fille. Voilà. Donc ça s'est pas construit comme c'était prévu au départ, mais c'est souvent comme ça. Les personnages, ils mènent l'auteur par le bout du nez.
C'est ce qui fait aussi le charme de l'écriture.
Hein. Oui, c'est de se laisser mener.
Voilà, par des personnages qui ne sont pas des personnages de Ferenos. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur le personnage d'Éléonore. Donc, une des constantes, une des constantes de ce personnage, c'est le repli sur soi-même, hein, pour protéger les cicatrices de ses blessures de la vie. Mais on se rend compte assez rapidement quand même que ces blessures, ce sont souvent un peu des automutilations.
C'est vrai, c'est un personnage qui, elle aussi, s'invente des douleurs. Moi, c'est souvent comme ça. Dans la vie, la douleur, c'est quelque chose qui est aigu. On l'a à un moment, mais à partir du moment où on l'auto-entretient et où elle devient chronique, on est dans l'automutilation. C'est ce qui empêche certaines personnes de vivre et qui fait la fortune des psychologues et des psychiatres.
Oui, voilà, on a l'impression vraiment qu'Éléonore c'est entortillée dans une espèce de cocon de douleur, de souffrance, de souvenirs désagréables.
Oui, elle est. C'est surtout ce qui l'amène, c'est le ressentiment, la haine qu'elle a conçue contre son mari à partir du moment où elle a pensé que c'est lui qui était à l'origine de la noyade de leur fils. Partant de là, elle n'a pas pu lui pardonner ça, mais il y avait des choses plus profondes qui étaient là déjà préexistaient et qu'elle ne lui a jamais pardonné.
Alors, il faut quand même dire aussi un mot de votre style d'écriture qui est plutôt original. Je trouve que c'est vif, c'est une écriture qui est extrêmement incisive. Hein. C'est même pas au scalpel, on a l'impression que vous écrivez au laser plutôt. C'est très agréable à lire. Hein. Et du coup, je crois bien que c'est un des éléments qui vous évite de sombrer dans le pathos. Parce qu'on, enfin, compte tenu du thème et de l'histoire que vous racontez, on pourrait très très facilement sombrer dans le pathos, dans le larmoyant, tout ce qu'on voudra. Et le style d'écriture contribue précisément à alléger, à rendre très agréable la lecture du roman.
Oui, c'était...
Je vais vous voir rougir, là, mais...
le style d'écriture dépouillé et... Enfin, c'est aussi ma marque de fabrique, j'écris comme ça, même quand j'écris pour le théâtre. Mais je pense qu'on peut pas noyer les choses. Ces sentiments-là, si on les noie, effectivement, on tombe dans la guimauve ou pire, dans une sensiblerie qui est insupportable. Quand on est dans l'indicible, faut trouver la façon de le dire. Et la seule façon de le dire, c'est d'être le plus simple possible. C'est pas la peine de mettre des superlatifs ou des adverbes à tout bout de champ. Les mots, même sans verbe, simplement un mot comme ça, jeter, veut dire quelque chose à partir du moment où il résonne dans l'esprit du lecteur et aussi il fait écho à un sentiment. Il n'y a pas besoin de décrire le sentiment. Il suffit de trouver le mot juste pour donner ce que ressent le personnage à ce moment-là, sans avoir besoin de décrire tout ce qu'il y a autour et les pleurs. Enfin, je crois qu'à aucun moment je ne décris les personnages, même peut-être dans leur physique.
Pas du tout. C'est en ce sens que vous êtes un peu dans l'écriture théâtrale, parce que vous cherchez à montrer, non pas à démontrer. Hein. Je crois que c'est Thomas Bernhard hein, qui utilisait cette formulation.
Exactement.
Voilà. Et on est vraiment tout à fait dedans. C'est une façon, si j'ose dire, de faire parler les mots.
Voilà.
Ou plutôt de les laisser parler.
Faut laisser les mots parler.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit échantillon, justement, de cet ouvrage, donc de ce roman Se départir, alors dont je rappelle qu'il est paru aux éditions Mon Petit Éditeur.
Alors, c'est un
peu... voilà, essayez de situer peut-être le passage.
Bon, c'est un extrait de la première partie. C'est la rencontre au restaurant entre la mère et la fille. La fille Léa a donc invité Éléonore à déjeuner avec elle. Elle veut lui dire quelque chose. Elle veut lui dire pourquoi elle lui a demandé de venir expressément à Paris. Donc, elles viennent d'avoir déjà une conversation et la mère est déjà sur ses gardes et elle dit. Donc, c'est Éléonore qui commence à parler. Je viens de me refermer comme une huître. Comment lui faire comprendre? Je ne veux rien avoir à faire avec Antoine, encore moins décider de sa mort. Cela ne me concerne pas. Après le décès de Guilhem, la folie m'a prise. J'ai voulu le tuer, j'ai fait le geste. Après, j'ai mis entre lui et moi une distance suffisante pour canaliser mes pulsions meurtrières, oublier qu'il me fut intime. Je hasarde. Léa. Il faut régler cela avec les médecins. C'est difficile pour moi. Nous sommes divorcés depuis 22 ans. Je ne l'avais pas revu une seule fois avant hier. Pour moi, c'est un étranger. Essaie de comprendre ça. Quand même, il est le père de tes enfants, non? Elle crie, une agressivité dans sa phrase. Ses yeux se voilent de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Après un long silence, elle murmure. Pourquoi tu te tais? Ce n'est pas le cas? Écoute, père ou pas, pour moi, qu'il soit vivant ou mort, c'est la même chose, tu comprends? Je lui assène le coup de grâce, que puis-je faire d'autre? Entre deux sanglots, elle dit « Non, je ne comprends pas. Vous vous êtes aimés, ça doit bien laisser des traces quand même. » Ne m'oblige pas à te répondre. « Si, justement, je suis ici pour ça. Je veux comprendre, à défaut de comprendre. Je veux au moins entendre de ta bouche ce qui t'a conduit à une telle haine. La mort de Guylaine ou autre chose que tu me caches? Parle donc, j'ai l'âge de raison, parle, je t'en supplie. Je ne veux pas. Tu es lâche. »
Merci beaucoup, Louise Caron. Merci pour cet extrait. Et puis aussi, merci pour cet ouvrage, donc Se départir, chez mon petit éditeur. Je me tourne maintenant vers Michel, qui apparemment s'est chargé de la programmation musicale de l'émission. Vous nous proposez maintenant Petite, de Léo Ferré. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre ce que nous venons d'entendre?
Ah bah, pour ce titre, ce n'est pas moi qui m'en suis chargé. Donc, je passe la parole.
Bon. Louise.
Bon, j'ai choisi Petite de Léo Ferré parce que c'est un des morceaux qui apparaît dans le roman, dans la deuxième partie, et c'est une chanson qu'Éléonore a écoutée en boucle pendant très longtemps et que sa fille a dans l'oreille et qu'elle entend à un moment crucial de l'histoire.
Allez, on l'écoute tout de suite, donc Léo Ferré, Petite en public à Bobino.
Tu as des yeux d'enfant malade, et moi j'ai des yeux de marmot. Quand tu es sorti de l'école, tu m'as lancé tes petits yeux doux, et regardez pas n'importe où, et regardez pas n'importe où. Ah, petite. Ah, petite, je t'apprendrai le verbe aimer qui se décline doucement, loin des jalouses et des tourments, comme le jour qui va baissant, comme le jour qui va baissant. Tu as le col d'un enfant cygne, et moi j'ai le corps, les mains de velours. Quand tu marchais dans la cour, tu t'apprenais à me faire signe, comme si tu avais eu 20 ans, comme si tu avais eu 20 ans. Ah, petite, ah, petite, je t'apprendrai à t'en mourir, à t'en aller tout doucement, loin des jalouses et des tourments, comme le jour qui va baissant, comme le jour qui va Besson. Tu as le buste des outrages, et moi, je me prends à rêver. Pour ne pas fendre ton corsage qui ne recouvre qu'une idée, une idée qui va son chemin, une idée qui va son chemin. Ah, petite, tu peux reprendre ton cerceau et t'en aller tout doucement, loin de moi et de mes tourments. Tu reviendras me voir bientôt. Tu reviendras me voir bientôt. Le jour où ça ne m'ira plus, quand sous ta robe il n'y aura plus le code pénal.
C'est 88.2, vous écoutez Silhouette. Dans Silhouette, aujourd'hui, je reçois Louise Caron pour son roman Se départir et Michel Caron, Quel est ce pingouin devenu sur la soupe. Et je me tourne maintenant vers Michel qui vient nous parler de son ouvrage paru simultanément et chez le même éditeur, Quel est ce pingouin devenu. Alors là, nous ne sommes pas du tout dans le même registre, mais c'est quand même peut-être une autre façon d'aborder la question du mensonge, de l'incommunicabilité. Vous pouvez à votre tour nous dire un peu ce que vous pouvez révéler de cette histoire des pingouins.
Ce que je peux en révéler, finalement, très peu de choses. Effectivement, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, pour donner la trame, sans rentrer dans les événements, on peut dire que cette histoire va commencer quelque part dans un bistrot au Mexique, où un écrivain en panne de sujet va entendre parler d'une histoire, justement, qui est l'histoire de l'espingouin. Et y voyant la trame d'un possible roman noir, il va venir en France pour enquêter sur qui a été cet espingouin. Et venant en France, il a une seule information au départ, l'adresse du logement, quelque part dans les Cévennes, peut-être pas loin d'ici, où habitait l'espingouin. Donc il va se rendre dans ce logement, il va rencontrer un premier personnage, qui a nommé Robert, qui fut surnommé dans le passé le Diable Noir et qui était l'éphémère vedette d'un groupe musical. Et au travers de ce Robert, deux autres personnages, un ancien camarade de Robert qui est un fils à papa manipulateur, apparemment bien informé sur les pingouins, et une ex-assistante d'agence immobilière, celle-même qui a conduit Robert dans l'actuel logement, donc l'ancien logement des Spingouins, qui depuis est devenue une riche héritière, mais très certainement héritière de ce qu'on pourrait appeler de l'argent sale. Donc, finalement, partant de l'enquête sur un personnage qui est les Spingouins, eh bien, c'est un peu sur l'ensemble de ces personnages qu'il va être amené à enquêter, ce qui va amener un élargissement de la question de départ. Donc, si la question de départ était quel est ce pingouin devenu, finalement, on va élargir un questionnement plus large qui est d'une certaine façon, dans quel monde vivons-nous et que recherchons-nous dans ce monde?
Alors, déconcertant, vous avez dit déconcertant. Bon, l'expression est peut-être un peu galvaudée, mais il faut bien dire que ce texte, c'est quand même une sorte d'ovni littéraire. Hein. Alors, vous en avez conscience, je pense, c'est une sorte de fausse enquête avec parfois un ton un peu d'étude de cas clinique. Hein. Et le plus fort, c'est que ça fonctionne parfaitement. Alors, voilà, ma première question, comment est-ce que vous êtes arrivé à construire cette histoire? Où est-ce que vous avez pris les différents éléments donc qui forment un puzzle, un peu. Il y a quand même quelque part, on en reparlera peut-être, une parenté avec ce départir de Louise.
Alors, on peut effectivement peut-être faire, puisqu'on a beaucoup fait de parallèles avec le théâtre. Bon, dans la pièce qu'on est en train de faire de tourner en ce moment, qui est La Ménagerie de verre, bon, une des premières répliques d'un des personnages, qui est Tennessee Williams John, est de dire, cette pièce est faite de souvenirs, je suis l'un des personnages de la pièce. Bah, si je voulais paraphraser ça, je dirais cette pièce, ce récit est fait de souvenirs, mais je ne suis pas un des personnages du récit.
Donc c'est un assemblage.
Donc c'est un assemblage.
Ça n'est pas un vin de cépave.
Non, effectivement, c'est un jeu de construction de petits morceaux. Donc chaque personnage est lui-même fait de plusieurs personnages mi-réels, mi-imaginaires. Et effectivement, c'est des morceaux qui sont rassemblés entre eux pour les faire trouver une mécanique qui fonctionne et finalement poser plus de questions que l'on donne de réponses.
Oui, parce que nous saurons plus ou moins à la fin ce qu'est effectivement devenu l'espingouin, mais même si vous posez la question dans le titre, et si elle préoccupe au plus haut point au moins l'un de vos personnages, bon, la réponse n'a pas beaucoup d'importance.
Ce qu'il est devenu exactement, non, à la limite... Enfin, moi, elle en a pour moi, puisque moi, en tête, j'ai l'histoire au-delà de l'histoire. J'ai effectivement tout ce qui n'a pas été raconté, mais pour le lecteur, ce qui lui est arrivé peut avoir de l'importance. Ce qu'il est devenu, bon, il est quelque part.
Oui, donc vous n'avez pas tout dit. Donc, vous ouvrez la porte à une suite.
Non, c'est mon histoire intérieure, simplement.
Alors, je me suis demandé un moment s'il s'agissait d'un roman à clé, mais je vous avoue que vous ne trouvez ni la clé ni la serrure, mais c'est peut-être un faux roman à clé.
Alors, c'est un roman avec des drôles de clés, je dirais. Alors, c'est un roman avec beaucoup de... Enfin, ça dépend finalement de ce qu'on appelle des clés. C'est des clés que l'on n'a pas besoin de connaître, et je pense que pour le lecteur, il n'y a pas besoin de savoir ni qui sont ces clés, ni quelles sont les serrures. Par contre, effectivement, un lecteur de passage qui tombe sur une clé qui évoque quelque chose pour lui, bah, il va pouvoir remonter d'un certain nombre de choses qui ne sont pas racontées au travers de ces clés. Mais les clés, elles sont volontairement de nature très différente. En fait, dans ce récit, il y a du cinéma, il y a de la musique. Il y a une remontée à des histoires anciennes, historiques, antiques.
Voilà, on sent des choses qui affleurent parfois. Alors c'est intéressant aussi parce que ça permet au lecteur de développer ses capacités d'imagination.
C'est le but. En fait, pour moi, je ne dis pas que je suis capable d'y parvenir, mais pour moi, le but ultime serait finalement que chaque lecteur lise une histoire différente.
Alors, est-ce que vous pouvez, donc, il y a, tout à l'heure, nous parlions de diptyque avec Louise. Bon, là, c'est un triptyque, en l'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement le portrait de ces trois personnages, donc Robert, la fille à papa, et le personnage un peu louche, un peu ambigu
Donc, Robert, donc, c'est l'ex-chanteur. Donc, Robert, c'est un personnage qui est né, disons, dans les années 40, donc qui avait une vingtaine d'années au début des années 60. En fait, c'était pas un Français, c'est un Anglais qui est passé par les États-Unis, qui a fait, bon, comme on peut supposer, comme chanteur de rock, une carrière en pointe à un certain moment, et puis, qui a complètement, j'ai débrayé à un moment donné, peut-être touché à des substances qu'il fallait mieux éviter.
Ouais, puis, en tant que chanteur de rock, a été aussi un personnage fabriqué.
Effectivement fabriqué, bien par un des personnages qui est effectivement le troisième personnage. Bon, c'est aussi un peu une peinture d'une époque où on fabriquait beaucoup de vedettes éphémères. Donc, c'est lui qui est venu occuper l'ex-logement de l'Espingouin, qui a appris incidemment que ce personnage bizarre qui est l'Espingouin, qui est en fait donc un immigré espagnol qui est passé par les camps du sud de la France après la guerre d'Espagne, ensuite dans les mines des Cévennes, puis est revenu à une position plus calme lorsque les mines ont fermé. Donc Robert se retrouve dans ce logement, il ne sait pas qui est l'espingouin, puis petit à petit, il va en entendre parler et cette histoire va l'omnubiler. Il va développer une vraie paranoïa.
Oui, ça devient complètement obsessionnel.
Oui, en fait, c'est déjà un individu qui a une certaine tendance à la paranoïa. En dehors de cela, et là, effectivement, il va se lancer dans un délire. Il a le besoin absolu de savoir qui est cet espingouin.
Ouais. Si j'invite un jour le personnage du fils à papa dans l'émission, quelle question est-ce que vous pourrez lui poser pour essayer de le décoder?
Ah ben ça sera très difficile parce que ce n'est pas quelqu'un qui répond aux questions. Mais bon, c'est un fils à papa, c'est devenu un personnage dont on peut supposer qu'il en pointe au niveau de la politique, qui vit dans les couloirs des ministères. Mais c'est aussi, ça n'est pas que ça. Effectivement, c'est lui qui a fabriqué Robert. En tant que chanteur, mais c'est aussi quelqu'un qui a un passé musical et qui est quelque part à la nostalgie de son passé. Ces personnages, ce sont aussi des personnages qui ont une jeunesse finalement assez, qu'on peut considérer comme assez exaltante, en tout cas assez curieuse, et puis qui sont retombés dans la banalité en vieillissant.
Alors nous allons continuer à parler de l'espingouin, il nous reste peu de temps dans l'émission, mais j'aimerais bien auparavant que nous écoutions Ay Carmela, donc ce soit une version française de Guy Debord. Alors un petit mot très très rapide pour le présenter, je ne sais même pas si nous pourrons l'écouter en entier, si nous voulons pouvoir continuer à parler un peu avec vous de cet espingouin.
Alors bon, pourquoi Ay Carmela? Parce que finalement, la guerre civile espagnole a laissé relativement peu de chansons par rapport à d'autres mouvements. La principale, c'est Ay Carmela, qui ne parle pas du tout au départ de la guerre d'Espagne, mais qui parle en fait des guerres, de la résistance aux guerres napoléoniennes, et bon, qui est connue de multiples adaptations. Et donc la version qu'a écrit Guy Debord au début des années 70, finalement replace, donc à ma connaissance, la seule version en français, replace au contraire la chanson dans le contexte de la guerre d'Espagne.
La garde d'assaut marche, boum badaboum badaboum bam bam. La garde d'assaut marche, boum badaboum badaboum bam bam. Au centre téléphonique, Ay Carmela, Ay Carmela. Au centre téléphonique, Ay Carmela, Ay Carmela. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Provocation stalinienne, Ay Carmela. Ay Carmela, provocation stalinienne. Ay Carmela, ay Carmela. On ne peut laisser faire, boum badaboum badaboum bam bam. On ne peut laisser faire, boum badaboum badaboum bam bam. Le sang coule dans la ville, ay Carmela, ay Carmela. Sénette, boum badaboum badaboum bam bam. Pour mes failles, sénette, boum badaboum badaboum bam bam. A Vessel, prix Barcelone, Ay Carmela, Ay Carmela. A Vessel, prix Barcelone, Ay Carmela, Ay Carmela. La République s'arme, boum badaboum badaboum bam bam. La République s'arme, boum badaboum badaboum bam bam. Mais d'abord contre nous autres, Ay Carmela, Ay Carmela. Mais d'abord contre nous autres, Ay Carmela, Ay Carmela. À Valence et à Moscou, boum badaboum badaboum bam bam. À Valence et à Moscou, boum badaboum badaboum bam bam. Le même ordre nous condamne, Ay Carmela, Ay Carmela. Le même ordre nous condamne, Ay Carmela, Ay Carmela. Ils ont juré d'abattre, boum badaboum badaboum bam bam. Ils ont juré d'abattre, boum badaboum badaboum bam bam. L'autonomie ouvrière, Ay Carmela, Ay Carmela. L'autonomie ouvrière, Ay Carmela. lutte finale, boum badaboum badaboum bam bam. Pour la lutte finale, boum badaboum badaboum bam bam. Que le front d'Aragon vienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Que le front d'Aragon vienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Camarade ministre, boum badaboum badaboum bam bam. Camarade ministre, boum badaboum badaboum bam bam. Dernière heure pour comprendre, aïe Carmela, aïe Carmela. Dernière heure pour comprendre, aïe Carmela, aïe Carmela. Honte à ceux qui choisissent, boum badaboum badaboum bam bam. Honte à ceux qui choisissent, boum badaboum badaboum bam bam. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela.
Radio Grille Verte 88.2, vous écoutez Silhouette aujourd'hui. Dans Silhouette, Louise Caron nous a parlé de son roman Se départir et Michel Caron nous parle de Quelles pingouins devenus, paru aux éditions Mon Petit Éditeur. Michel, vous usez abondamment de la note de bas de page, en général de type encyclopédique, ce qui à mon avis renforce l'effet comique du roman, mais apporte quand même aussi de vraies informations. Enfin, finalement, j'aurais peut-être dû vérifier, parce que je ne suis pas si sûr que ça, que vous apportiez de vraies informations.
J'apporte aussi de vraies informations. Voilà. Mais effectivement, pour moi, ces notes font partie d'écritures romanesques, dont certaines, une majorité sont vraies. Et bon, il y a aussi quelques inventions dans les notes.
Il y a quelques semaines, vous receviez ici Roland Audat pour son superbe ouvrage « L'équipe est volave », hein, et dont l'une des originalités est d'être fourni avec une playlist. Vous aussi, vous avez une sorte de bande de son qui court plus ou moins tout au long du livre, hein, qui ressemble beaucoup quand même à un moment de nostalgie.
Bon, peut-être en fait, c'est effectivement ce son, encore une fois, des personnages dont la jeunesse se situe au niveau des années 60, à l'extrême limite 70. Donc
qui est un peu contemporain de la vôtre quand même.
Qui sont contemporains, voire un petit peu plus âgés que moi. Ce sont vraiment des enfants de la guerre.
Alors précisément, ces personnages, ne me dites pas qu'ils sortent d'ailleurs que de votre imagination. Est-ce que ce sont est-ce que c'est une sorte de puzzle aussi, des pièces prises sur divers personnages autour de vous?
Ce sont des pièces prises sur quelques personnages. Donc certains traits sont imaginaires. Mais effectivement, moi, un personnage comme Robert le Diable Noir n'est presque pas imaginaire.
Alors, un tout petit extrait pour terminer, alors, puisqu'il nous reste une petite minute d'émission.
Donc, moi, un extrait, eh bien, c'est Robert qui vient d'emménager dans ce logement et qui essaye de prendre contact avec son environnement. Je mentirais si je prétendais que cette prise de contact avec la faune locale se fit sans difficulté. Mais bientôt il me fut accordé de pouvoir prêter l'oreille au dire de quelques oisifs. C'est ainsi qu'à un détour de la rue du Pont, j'entendis pour la première fois évoquer le souvenir de l'espingouin. Pour être franc du collier, au début, les discussions avaient tendance à se muer en chuchotement à mon approche. J'attribuais ça à la méfiance envers l'étranger qui vient se mêler de ce qui ne le regarde pas. Mais en fait, cela tenait tout autant à la réserve que l'on peut avoir envers un parvenu qui vient d'acheter un manoir dont tout le monde raconte qu'il est hanté. La différence, excusez du peu, c'est que si j'étais parvenu, c'est tout au plus attirer une flemme bien méritée. Quant à mon modeste intérieur, non seulement il ne m'appartenait pas, mais le comparer à un manoir. Toujours est-il que j'appris rapidement qu'un matin qui doit être, selon mes recoupements, celui du 13 avril 68, tout le voisinage eut droit à un barouf inattendu, coïncidant avec le lever du soleil. Trois individus portant imperméable passe-muraille tambourinaient à cette porte qui est aujourd'hui la mienne. La simplicité de leurs propos témoigna à la fois d'une imagination peu fertile et d'une froide détermination, je cite, « police ouvrée ». Quelques passants avaient une demi-heure plus tard assisté à la sortie par la même porte de l'espingouin, puisque je l'ai appris ensuite, il avait été locataire ici bien avant moi.
Merci beaucoup, Michel Caron. Donc, vous l'aurez compris, je recommande fortement la lecture de ces deux ouvrages, Se départir de Louise Caron chez mon petit éditeur et Qu'est-ce pingouin devenu de Michel Caron. Une date peut-être de signature, rien pour Michel dans l'immédiat. Louise.
Le samedi 23 mars à 15h30 à la librairie La Porte des Mots à Anduze.
Anduze, chez notre ami Bernard. Merci beaucoup, Louise et Michel, d'avoir participé à cette émission. Merci à Cathy qui a assuré la technique avec son efficacité habituelle. Et merci surtout à tous les auditeurs qui nous sont fidèles. On se retrouve lundi ou mardi prochain, toujours sur Radio Grille Ouverte 88.2 pour un nouveau numéro de Silhouette. Au revoir à tous.